Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
La scène est campée. Jean n'est pas le Messie. Jean n'est pas le prophète. Jean n'est pas Élie qui est revenu. Nous avons aussi entendu comment la méditation de Jean est arrivée à présenter le mystère même du Christ sur lequel il médite depuis une soixantaine d'années, peut-être plus, comme étant à la fois une parole créatrice, le dabar, le logos, verbum, suivant que les peuples de l'époque parlaient juif, enfin hébreu, grec ou latin, et d'autre part la lumière. Nous sommes devant un spectacle d'une personne, celle de Jésus de Nazareth, que les mots humains en tant que tels ne peuvent décrire ni qualifier totalement. Il faut donc passer au stade de la métaphore, c'est-à-dire de la comparaison, mais qui fait qu'un avec la chose ou la personne que l'on décrit. On va dire que Jésus est le Verbe de Dieu. Il est la parole. La parole est un être. Jean va dire que Jésus est la lumière du monde. Pas uniquement comme une lampe électrique. Il est la lumière du monde, il éclaire, c'est-à-dire qu'il donne du sens, il rend compréhensible, il fait expérimenter, quoi, la réalité de Dieu. C'est bien dans ce cadre-là, et toutes les histoires que nous entendrons racontées par Jean, et tous les événements qu'il nous rapportera, et qui souvent recoupent dans leur mot à mot même ce que Luc et Matthieu rapportent, sont cependant à voir sous l'aspect métaphorique, sous l'aspect symbolique, c'est-à-dire qu'ils disent et ils signifient en même temps, ils nous renvoient plus loin. Écoutons déjà le récit de ce qu'on appellera le baptême dans le Jourdain.
Le lendemain de ce jour, Jean était en train de hurler aux gens leurs quatre vérités, quand tout d'un coup, il stoppa net. Jésus venait d'apparaître au milieu de la foule, et Jean changea complètement son discours. Il tendit le bras dans la direction de Jésus, autour duquel se forma de suite un cercle surpris et médusé. « Voici l'agneau de Dieu !» monta la voix de Jean dans le silence attentif. « C'est lui qui enlève le péché du monde !» C'est de lui que j'ai parlé hier quand je vous disais « Un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas moi-même qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Les cousins se regardaient dans les yeux, malgré la distance qui les séparait. On aurait dit qu'ils étaient seuls, face à face, les pieds dans le limon doré de la rivière parisseuse, tandis qu'une marée de souvenirs remontait dans leur mémoire. Et surtout, cette visite de Marie, la mère de Jésus, à sa cousine Élisabeth, la mère de Jean. Rencontre de deux femmes enceintes par la volonté d'un Dieu qui faisait se rencontrer aujourd'hui le fruit béni de leurs entrailles. La fin d'une époque, le début d'une autre, le temps de la frontière, avant lui, après lui, Jean et Jésus, conscients de se transmettre dans l'eau génératrice, la promesse de toujours pour tous les lendemains de l'histoire. Dans un souffle, comme pour lui-même seulement, Jean continua alors. « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme... » Il cherchait un mot, une comparaison, une aide. « Comme une colombe, et demeurait sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec cet Esprit Saint. » De nouveau un silence. Puis, dans une déclaration qui devait résonner longtemps dans les avenues du temps, Jean conclut. « J'ai vu cela, et j'affirme donc que cet homme est le Fils de Dieu. » Voilà. C'était dit. Jean avait rempli sa tâche. Le lendemain de son baptême, Jésus repassa par l'endroit où Jean baptisait. Et Jean, entouré de deux de ses disciples, le reconnut et s'écria devant eux, en l'indiquant du doigt, « Le voilà, c'est lui !» À ces mots, les deux disciples le laissèrent et se mirent aussitôt à suivre Jésus. Jésus se retourna, « Que voulez-vous ? Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? Venez voir, » fut la seule réponse. Ce qu'ils firent. Et ils passèrent la journée avec lui. C'était en fin d'après-midi. L'un d'eux était André, et il avait un frère, Simon. Il alla aussitôt le trouver et lui annonça, « Nous avons découvert le Messie !» Et il l'amena à Jésus, qui lui dit en le fixant dans les yeux, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras désormais Pierre. » Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée, et sur le chemin, il rencontra Philippe. « Suis-moi, » lui a-t-il dit. Il faut vous dire que Philippe était de Bethsaïde, d'où venaient aussi André et Pierre. Philippe, à son tour, tomba sur Nathanaël. « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et qu'ont annoncé les prophètes. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Mais Nathanaël répondit en ricanant, « Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit un peu agacé, « Viens donc voir. » En voyant Nathanaël venir à lui, Jésus dit de loin, « Voici un Israélite typique qui dit ce qu'il pense. » Mais Nathanaël rétorqua aussitôt, « D'où me connais-tu ? » Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu te reposais sous le figuier, je t'ai déjà vu. » Alors, tandis que les bras lui en tombaient, Nathanaël s'écria sur un tout autre ton, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël !»« Ah, Nathanaël, reprit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu vas voir ce que tu vas voir. » Et Jésus ajouta en se redressant comme s'il avait soudain grandi à vue d'œil, « Je vous déclare solennellement, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu escorter le Fils de l'homme. »
Ainsi, dès le premier récit, Jean va vite, le temps presse. Tout est déjà déclaré, exposé. En un tour de main, le deuxième ou troisième jour, le lendemain en tout cas de sa rencontre avec son cousin, voici déjà quatre recrues. Philippe, qui appelle son frère Pierre. André, pardon, qui appelle son frère Pierre. Puis ensuite Philippe, qui appelle son camarade Nathanaël. On abandonne Jean. Il faut que il croisse et que je diminue, disait-il. Il faut qu'il grandisse et que moi je disparaisse. J'ai joué mon rôle. Exit. Je peux sortir. À d'autres de prendre la suite. Et la finale de ce paragraphe est déjà là. Vous verrez. Je vous le déclare. Vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez les anges de Dieu escorter le Fils de l'homme. Alors, on comprend bien que cette façon de présenter la chose est une révélation. On va mettre en scène un certain nombre de petits faits, une fête, un événement, une déclaration, une révélation. Et chacune des épisodes, qui vont être des semaines diverses, vont présenter peu à peu, par un fait, un événement, une fête, ce qu'est le Fils de Dieu. Alors bien sûr, il s'agit du baptême de Jésus. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le baptême tel que l'organisation de l'Église catholique romaine l'a mis au point. Jésus n'a jamais reçu le baptême qu'ont reçu vos enfants, vos petits-enfants ou vous-même. Allez, je vais oser cette formule. Jésus n'est pas chrétien. Il n'est pas catholique romain. Jésus est Jésus, Fils de Dieu. Le rite auquel il se soumet est une forme de pénitence, comme quand on fait une confession générale, une fois par an, lors d'une retraite, on éprouve le besoin de... Sauf que lui n'avait rien, du moins, c'est ce qu'on dit, à se reprocher. Mais il a voulu rentrer dans le rite général, homme jusqu'au bout des orteils, si vous me permettez, puisqu'il était pieds nus dans le limon du fleuve. Homme jusqu'à la dernière goutte d'eau versée sur sa tête, comme tout le monde. Homme avec les hommes, marchant au milieu des hommes, reconnu par eux comme homme, mais se révélant à eux comme Dieu. C'est toute l'aventure qui est le drame même de Jean qui y raconte, et le drame même de Baptiste, Jean, le cousin de Jésus, qui est son aîné de quelques mois, et qui est celui qui le précède dans le temps, d'une part, dans la venue de l'avènement, d'autre part, et qui maintenant va disparaître, tellement disparaître qu'on va, dans quelques instants, lui couper la tête. Donc comprenez bien que la composition de l'évangile de Jean est une espèce de catéchèse poétique et mystique qui ne nous présente des événements que pour que nous ayons de quoi méditer, ruminer, repenser dessus. Voilà.
C'était une bonne nouvelle d'après Jean, une traduction-transposition du père Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.